Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Inès.
Premier numéro de la saison, l'horaire ne change pas. On se retrouve tous les lundis à 18h sur le 90FM. Et pour cette rentrée, à vous les Burgiens, change de format. 30 minutes d'infos 100% locales à votre rencontre.
Mardi 1er septembre, la majorité des élèves est retournée en classe. Nous avons rencontré parents et enfants à l'école primaire Charles Péguy pour ce jour particulier.
Le 1er septembre, c'est aussi le jour où le port du masque est devenu obligatoire dans les entreprises. Comment ça se passe? Est-ce que tous les salariés sont concernés? On en parle dans quelques minutes avec nos invités.
Bourque, en bref.
Et on commence avec l'actualité.
La préfecture de l'Ain appelle à la prudence dans les clubs sportifs amateurs face au coronavirus.
De plus en plus de cas sont détectés dans des clubs du département et la préfecture met en garde contre le relâchement. Elle insiste, le port du masque doit être respecté en dehors du terrain ou de l'activité.
La circulation du virus s'intensifie en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Ain.
L'ARS, l'Agence régionale de santé, a classé tous les départements selon trois niveaux, limité, modéré et élevé. Fin août, le Rhône était en niveau élevé et l'Ain en niveau modéré. L'ARS demande aux citoyens de bien respecter le port du masque.
Et le masque sera aussi obligatoire pour la rentrée des associations. Elle aura lieu ce samedi 12 septembre à Bourg-en-Bresse, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, la MCC. Une centaine d'associations de tous les secteurs sera présente à l'extérieur, des animations, un espace jeunesse, à l'intérieur, expositions, démonstrations sportives, débats.
Pour Jean-Paul Godot, président de l'AGLCA, la Maison de la Vie Associative, cette année, la rentrée des assos a des enjeux encore plus importants.
Pendant un certain temps, les associations se sont trouvées peut-être pour un certain nombre en difficulté parce que moins de rentrées financières, en particulier quand elles ont dû stopper leur activité. Donc elles ne pourraient pas, pour les petites ou les moyennes associations, continuer à vivre comme ça pendant des mois et des mois. Donc l'enjeu de survie des associations est extrêmement présent. Et puis, les associations, j'ai l'habitude de dire, c'est le premier lieu du lien social. Et effectivement, il faut savoir que pendant le confinement, le plus grand nombre des associations ont maintenu des liens avec leurs adhérents, avec leurs militants, avec leur public, de façon à pouvoir maintenir ce lien social. Il n'empêche que beaucoup de personnes qui fréquentent les associations, comme de beaucoup de citoyens, le citoyen lambda, beaucoup a souffert de ce confinement. Et ce moment, cette rentrée des associations permettra effectivement de recréer ce lien social absolument nécessaire pour le bien-être de chacun.
La Maison de la Culture et de la Citoyenneté, la MCC, sera inaugurée samedi matin.
La rentrée des associations, c'est ce samedi, le 12 septembre, de 14h30 à 19h, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à Bourg-en-Bresse.
Radio B sera présente et en direct toute l'après-midi sur les ondes. Venez échanger avec nous sur notre stand et nous écouter au programme Interview d'associations avec des pauses musicales et sportives.
Si la pluie s'invite, pas de repli, la rentrée des assos sera annulée sans être reportée.
Un nouveau squat a ouvert à Bourg-en-Bresse, avenue du Maréchal Juin. Son nom, La Chouette. Cali fait partie des trois jeunes à l'origine du projet. Elle nous explique leur objectif.
Donc, notre projet, c'est la Maison de l'écologie et de la décroissance. Et en fait, l'idée, c'est d'ouvrir un lieu qui sera ouvert à tous, dans lequel on parle d'écologie, on fait de la sensibilisation autour des thèmes de l'écologie, de la solidarité. On va proposer des ateliers de jardin, de faire soi-même, de plein de choses. On espère qu'on aura une gratuiterie, qu'on va faire une cantine solidaire en récupérant de la nourriture et en la proposant à prix libre, une bibliothèque. Enfin, l'idée, c'est que c'est vraiment un lieu qui soit ouvert à tous, qui soit vivant. et où on prône nos valeurs d'écologie et de décroissance.
Ce tiers-lieu est ouvert, sauf si la justice en décide autrement. Une procédure est lancée pour déloger ces habitants qui occupent une maison abandonnée.
Mais en attendant, les activités sont lancées. Vendredi, c'est café littéraire à 16h. Et dimanche, atelier fabrication d'éponges japonaises à 10h. C'est au 10 avenue du Maréchal Juin à Bourg.
Les abonnements sont exceptionnellement gratuits jusqu'au 31 octobre dans toutes les médiathèques de Bourg.
Horaire identique pour Camus, Césaire et Vaillant pour cette rentrée 2020. Fermées le lundi, les médiathèques burgiennes seront ouvertes les mardis, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Et le mercredi et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h.
Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 11 ans. Et dans les animations, pour participer à ces dernières, inscription obligatoire.
Le Tour de France, bientôt dans l'Ain. Il passera ce dimanche au Grand Colombier et vendredi 18 septembre à Bourg. L'ambiance n'est pas la même, des caravanes réduites, pas d'autographes ou de selfies avec les cyclistes et le port du masque est obligatoire pour le public.
Parmi les coureurs, deux participants sont originaires de l'Ain, Pierre-Luc Perrichon de l'équipe Cofidis et Geoffrey Soupe de l'équipe Total Direct Énergie. Nous l'avons suivi pour son dernier entraînement dans le Revermont avant son départ pour le Tour. Geoffrey Soupe explique les mesures mises en place pour les cyclistes.
Ça va être très particulier cette année, ouais, parce qu'il y a des restrictions vraiment très, très dures de la part d'ASO, ce qui est normal vu le contexte. Donc on aura vraiment une bulle restreinte, chaque équipe aura sa bulle. On n'a pas le droit aux venues des femmes de coureurs, de la famille, donc ça sera certainement un peu plus dur qu'habituel. Donc moi je me sens bien dans l'équipe, on sera très soudés, le staff est aussi là pour nous aider, pour nous accompagner au-delà de la partie sportive, elle est là pour nous aider. Donc ça va le faire, ça va être un tour particulier certainement, mais ça va le faire.
Bourg-en-Bresse sera la ville de départ de la 19e étape du Tour de France.
Radio B sera sur le parvis du monastère de Brou pour une émission spéciale en direct. Ce sera entre 12h30 et 14h, vendredi 18 septembre. Avec nous, le maire de Bourg, l'office de tourisme, une ancienne cycliste et un ancien participant du Tour de France.
Deux minutes, une actu.
Pour ce nouveau rendez-vous qui décrypte l'information, alors Inès, on va s'intéresser au port du masque.
Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire dans les lieux collectifs, clos, dès l'âge de 11 ans. Les lieux de travail sont donc concernés, comme les open space, et c'est à l'employeur de fournir les masques. Le refus de le porter dans les entreprises sera considéré comme une faute professionnelle. Quelques exceptions existent, les bureaux individuels fermés et les ateliers bien ventilés, surtout quand les employés doivent faire un effort physique. À l'école, le masque devient obligatoire pour les élèves à partir de la 6e. Pour les professeurs, même consigne à tous les niveaux, sauf en maternelle. Le masque peut aussi être obligatoire en extérieur, et c'est le cas pour les marchés dans toutes les communes de l'Ain, mais aussi dans des villes entières comme à Lyon ou à Villeurbanne.
Alors Inès, est-ce que le port du masque est vraiment efficace ?
Le masque est efficace pour réduire la propagation du virus par les sécrétions respiratoires, c'est-à-dire quand on respire, on éternue ou on parle. C'est ce qu'indique le protocole du HCSP, le Haut Conseil de la Santé publique. C'est lui qui conseille l'État sur le port du masque. Il est composé de scientifiques et de médecins notamment. Des études aussi du département de la santé des États-Unis vont dans le même sens. Le port du masque pourrait réduire de moitié le risque d'infection au travail. Une autre étude de la revue américaine Science Advance indique cependant que les masques ne sont pas tous aussi efficaces. Les FFP2 filtrent 100% des gouttelettes émises. Pour les masques chirurgicaux, c'est 90%. Et ceux en textile bloquent entre 70% et 90% des gouttelettes.
Le port du masque obligatoire dans les entreprises, on en parle tout de suite avec nos invités.
L'invité de Radio B.
Sophie Varlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de l'agence Âge d'Or Service à Viria, une entreprise de service à la personne pour les personnes âgées. Paul Culti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général au MEDEF de l'Ain.
Sophie Varlet, le port du masque est obligatoire depuis le 1er septembre. Comment s'est passée cette première semaine ?
Alors nous, on a déjà le port du masque obligatoire depuis le mois de mars. Depuis le 16 mars, on a mis ça en place pour tous nos intervenants auprès de nos bénéficiaires, qui sont des personnes vulnérables. C'était juste un petit peu plus léger au niveau du bureau, au niveau de l'administratif, où effectivement on était en équipe réduite. Mais maintenant, en fait, ça s'est régularisé avec l'imposition du port du masque en entreprise. Ben, on le porte tout le temps, maintenant, même au bureau.
Et comment vous vous êtes organisé pour mettre cette mesure en place ?
Alors, on avait des masques chirurgicaux pour nos intervenants à domicile, soit des masques FFP2. Et pour nos personnes administratives, on a des masques lavables. Donc, ils ont une dotation de masques lavables et ils en changent tous les jours. Après, dans les bureaux fermés, effectivement, on n'a pas imposé le port du masque. Mais dès qu'on est à deux dans un environnement clos, ou dès qu'on est en réunion, ou dès qu'on reçoit du public ou un de nos intervenants, le port du masque devient obligatoire.
Mais au niveau du stock, est-ce que c'est des masques que vous aviez déjà, ou vous avez dû vous équiper? Vous avez dit que vous avez déjà mis le port du masque au mois de mars. Il y avait des soucis d'approvisionnement. Comment ça s'est passé de votre côté?
On a eu la chance, c'est qu'on a eu tout de suite une dotation par notre franchiseur de 2000 masques qui nous a permis de tenir en attendant les dotations du conseil départemental. Et du coup, effectivement, on a pu équiper tous nos intervenants à domicile dès le début. On a juste privilégié nos intervenants en contact avec les personnes vulnérables. Et nous, au bureau, on avait des masques grand public qu'on avait fabriqués nous-mêmes dans un premier temps, d'ailleurs, avant de passer aux masques grand public qu'on a pu acheter en pharmacie ou auprès de filières de la Poste.
Quel retour de vos salariés ?
Ah bah, de toute façon, eux, pour eux, s'il n'y en avait pas eu les masques, je crois qu'ils n'auraient pas été d'accord d'intervenir à l'extérieur. Donc, c'était indispensable de pouvoir les protéger et de protéger nos bénéficiaires qui sont vraiment des personnes vulnérables. Au bureau, on se sentait, je pense, un petit peu protégés. Maintenant, avec le retour des vacances, peut-être qu'on s'est un peu relâché et c'était important qu'on mette ces mesures de prévention aussi au bureau.
Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés pour travailler avec un masque ? Ceux qui sont en contact justement des personnes vulnérables, c'est vrai qu'on parle souvent par rapport aux enfants en bas âge, mais aussi pour être au contact des personnes âgées, le fait de voir le visage, c'est aussi important.
C'est vrai que c'est important, surtout pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui sont vraiment en perte d'autonomie. Bon, après, je pense qu'ils se sont fait aussi, ça fait partie maintenant, ça a été tellement dit à la télévision, par tous les médias, que les gens s'y sont fait. Ça a été un peu compliqué au démarrage, mais bon, ça a été sur le mois de mars-avril, ils ont eu du mal à s'y faire, oui, pour certains.
Alain Griset, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, a déclaré « Il faut qu'on s'habitue à travailler dans ce cadre-là ». Paul Culti, quel retour des entreprises face à ces mesures ?
Les entreprises, aujourd'hui, elles ont comme préoccupation d'avoir la confiance, entre guillemets, de leurs salariés, donc de prendre des mesures sanitaires qui puissent leur démontrer toute l'importance de porter un masque, de se laver les mains et donc d'être en sécurité, puisque c'est vrai que cette épidémie quand même marque et a secoué pas mal des gens. Donc voilà, ça c'est la première préoccupation des chefs d'entreprise, c'est faire en sorte de mettre en sécurité leurs salariés et de les mettre en confiance. Mais on est bien conscient, et c'est bien là la difficulté de cet exercice, c'est que l'économie doit continuer à fonctionner le plus possible. Et là, la difficulté, c'est qu'on arrive à faire en sorte de prendre des mesures objectives pour éviter cette psychose, entre guillemets, de la peur de l'autre. Et vous parliez tout à l'heure de la vie associative. Mais oui, c'est permettre aux gens de continuer cette vie sociale qui est la base d'une société. Voilà.
Et vous pensez que le port du masque suffira à rassurer les travailleurs pour travailler dans ces conditions de crise sanitaire ?
C'est un des éléments, mais je dirais que parfois, des personnes qui sont dans un grand hangar ou qui ont des travaux difficiles, il est parfois difficile de le garder toute la journée. Il faut se mettre à leur place. À un moment donné, on a tous voulu des masques FFP2, mais l'intérêt, effectivement, c'est éviter qu'il y ait des projections, qu'ils puissent rentrer, mais l'inconvénient, c'est de pouvoir respirer convenablement. Donc c'est cet équilibre. Le port du masque est un des éléments. Hein. Le deuxième, c'est mettre en place des mesures pour se laver les mains. On parle beaucoup de gel hydroalcoolique, mais il faut se laver les mains régulièrement. Et je pense que déjà, si les gens font très attention, ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, ils vont dans un atelier, ils se lavent les mains, déjà on va réduire pas mal le risque de propagation du virus. Hein.
Donc vous qui êtes en contact avec les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils ont tous été favorables à ce port du masque obligatoire?
Ben, je dirais que... Il se l'impose, entre guillemets, parce qu'il voit bien que c'est un élément qui va donner confiance. Mais comme je vous dis, l'idée, c'est que si on est trop restrictif à un moment donné, on voit différents types de masques. Sophie Varley a évoqué le fait d'avoir confectionné ces masques. Déjà, c'est un élément, FFP2 ou autre, d'avoir confectionné un élément de protection. C'est vrai que si c'est trop restrictif, les salariés à un moment donné auront tendance à le poser et c'est là où effectivement il peut y avoir problème.
Encore au sujet des mesures sanitaires, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises a ajouté, je le cite, on va accompagner les entreprises. Sophie Varley, est-ce que vous vous êtes sentie accompagnée pour mettre en place ces mesures ?
Oui, on a eu des fiches de prévention qui nous ont été envoyées, que ce soit par le conseil départemental, on a eu des communications de l'ARS et puis de notre franchiseur. Donc ça a été très clair pour nous. Après, nous, on n'a pas attendu le 1er septembre. Hein. À partir du moment où ça a été évoqué, on l'a mis en place tout de suite. Et finalement, au moins, ça a le mérite de clarifier pour tout le monde. On est tous à la même enseigne. Et voilà, je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Il n'y a pas de message ambigu non plus dans les entreprises.
Concrètement, combien ça vous coûte de fournir les masques à vos employés ?
Pour l'instant, on est encore sur les stocks qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, ça a été fourni par le conseil départemental. Mais là, effectivement, il va falloir qu'on rachète. On est quand même sur des bases de 250 masques chirurgicaux par semaine, à peu près, qu'on fournit aux employés. Donc, oui, ça va représenter un certain budget, c'est sûr.
Et ça, comment justement on le prévoit dans son budget pour les mois à venir, tout ce qui est le masque et les mesures qui vont autour, les autres mesures sanitaires?
Oui, parce qu'il y a les gels hydroalcooliques, il y a les tenues effectivement supplémentaires dont on peut avoir besoin en cas d'intervention chez des personnes Covid. Ça n'a pas été prévu, mais il va bien falloir qu'on le prenne en charge, de toute façon. Après, on verra l'année prochaine comment on l'inclut dans le budget.
Paul Cultine, une réaction ?
Oui, écoutez, c'est un réel problème, effectivement, par rapport aux entreprises, parce que ça génère des surcoûts, alors d'équipement, mais aussi sur les lieux de travail, je pense, les chantiers, notamment du bâtiment, lorsqu'il y a des marchés qui ont été pris, un montant fixé, et que l'on a des surcoûts liés notamment à ces problématiques d'achat d'équipement. Donc c'est une réelle difficulté pour les entreprises.
Est-ce que vous savez si d'autres branches vont avoir des ajustements de ce port du masque ? Est-ce que c'est en débat avec le gouvernement ?
Écoutez, je pense que là c'est au niveau des branches professionnelles, au niveau central, aussi en lien avec les services de l'État, direction du travail, mais aussi de la région, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi aider les entreprises sur ce volet.
Merci Sophie Varley. Je rappelle que vous êtes responsable de l'agence Âge d'or Service à Viria. Merci Paul Culti. Je rappelle que vous êtes le délégué général du MEDEF de l'Ain.
Merci bien.
Merci.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Mardi 1er septembre, petits et grands ont fait leur rentrée. Une rentrée pas comme les autres, des professeurs masqués, lavage des mains obligatoire. Certains élèves revoient même leurs camarades et professeurs après 5 mois d'absence. Il faut maintenant quitter papa et maman. Reportage à l'école primaire Charles Péguy à Bourg-en-Bresse.
Est-ce que t'es content d'aller à l'école?
Non.
Oh,
je veux pas aller à l'école.
T'étais bien à la maison?
Oui.
Alors tu penses quoi de cette rentrée?
Bien.
Est-ce que t'as pas peur avec tous ces trucs de masque, etc?
Un petit peu.
Tu t'appelles comment?
Shaina.
Shaina, alors qu'est-ce que tu penses de cette rentrée? Comment tu te sens?
Bien. Moi ça va. Après je suis un peu timide, alors après ça va aller mieux.
Je suis contente. On n'a pas pu bouger d'ici, on est contente que ça va commencer l'école.
Bah oui, non, contente qu'ils reprennent le chemin de l'école, c'est important. Ils ont été assez à la maison. On a fait le suivi quand même à la maison, mais on n'est pas maîtresse et maître, donc pour moi c'est bien, je suis contente. J'ai pas spécialement de crainte parce que bon bah je travaille, donc ils étaient déjà gardés, donc pas de soucis. Je sais que l'année dernière, ça s'est bien passé. Moi, ils sont retournés après le confinement. Ils sont retournés à l'école. Il n'y a pas eu de souci. Ils se lavent bien les mains. Les règles sanitaires sont respectées. Donc, non, il n'y a pas de souci.
Les garçons, Iliès, je ne sais pas quand c'est la délément. Merci. Bonne année dernière.
Flora Mandrillon, nouvelle directrice à l'école Charles Péguy. L'année dernière, j'étais déjà directrice, mais au Pays d'Aix. Voilà. Donc, c'est ma deuxième année en tant que directrice.
Comment on se prépare à une rentrée un peu particulière cette année?
On suit le protocole sanitaire qu'on nous a donné et on essaye d'anticiper et surtout de prévenir les parents.
Donc là, vous vous sentez comment pour ce premier jour?
Pour le moment, sereine. J'espère surtout que les enfants vont pouvoir avoir une rentrée tout de même enthousiaste, malgré le fait que l'on porte des masques. Mais je pense qu'une fois qu'ils seront dans l'école et qu'ils auront retrouvé leurs copains, tout devrait bien aller.
Et comment vous appréhendez le fait de faire cours avec un masque?
On ne l'appréhende pas forcément, on verra comment ça se passe et surtout je pense qu'il faudra parler un peu plus fort.
Je suis Véronique Schmitt, inspectrice de l'éducation nationale, adjointe de l'inspectrice d'Académie de l'Ain.
Au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'ils ont pensé à donner des astuces aux professeurs pour enseigner avec un masque, vu que ça enlève un peu les émotions des professeurs?
Oui, tout à fait. Bon, les enseignants ont recommencé à travailler hein, depuis le 11 mai. Donc, ils ont eu l'opportunité de voir les limites et les contraintes imposées par le masque. Et beaucoup ont déjà trouvé en fait des solutions. Et toutes les bonnes idées, nous essayons de les diffuser. Il y a par exemple des enseignants qui vont faire une capsule vidéo de quelques secondes ou de quelques minutes sans le masque dans leur préparation de classe et qui vont, par exemple, donner une consigne aux élèves de manière expressive, théâtralisée. Donc, pendant ce temps, eux-mêmes ont leur masque et les élèves se mettent au travail. Il y a aussi, évidemment, une théâtralisation un petit peu exagérée de la communication. Tout cela s'est fait au fil du temps avec la réouverture des écoles dans la phase progressive de déconfinement. Donc on accompagne évidemment les enseignants autant que possible par rapport à cette contrainte, vous avez raison, qui s'impose à eux.
Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, a profité de cette rentrée pour visiter une classe de CM2.
Et ce matin, quand vous vous êtes levé, c'était quoi? Vous étiez content de revenir? En général, il y en a toujours qui disent oui, mais c'est pas toujours vrai. Content de revenir. Ouais.
Quels ont été les moyens déployés par la mairie pour cette rentrée?
Alors, il y a deux types de moyens. Il y a ce qu'on aurait fait de toute façon. 300 000 euros de travaux dans l'ensemble des écoles. 300 000 euros, c'est pas rien. Un programme d'aménagement numérique, par exemple, dans cette école, toutes les salles sont équipées de tableaux numériques, donc de nouveaux matériels pédagogiques pour les enseignants. Après, il y a les mesures particulières liées à la situation actuelle, donc la distribution évidemment de masques à tous les adultes qui travaillent pour la ville. L'éducation nationale les fournit aux enseignants. Là, c'est des gestes barrières respectés en permanence. C'est un surentretien. On nettoie plusieurs fois par jour les poignées de porte, les sanitaires, les tables. Et puis, c'est des procédures adaptées également dans les cantines. pour faire en sorte que les groupes classes ne se mélangent pas les uns avec les autres, de manière à ne pas multiplier les possibilités de brassage du virus s'il est présent. Ce sont donc des mesures de précaution qui correspondent au protocole sanitaire.
Bonne rentrée à vous et puis bon courage. Travaillez bien. Au revoir. Bonne rentrée.
À bientôt.
Merci.
Pour cette rentrée, il faut toujours limiter le virus malgré le retour de la proximité. Comment ça se passe s'il y a un cas de Covid dans l'établissement scolaire? Véronique Schmitt, inspectrice de l'éducation nationale, nous explique.
Le premier point du protocole, c'est l'information. C'est-à-dire que s'il y a un détecté, il faut d'abord informer. Qui informe-t-on? Notre médecin scolaire, conseillère technique de l'inspectrice d'académie, qui, en lien avec l'Agence régionale de santé, évalue le risque de contamination. Et il y a un arbre de décision en fonction de ce que les gens ont fait, de ce qui s'est passé exactement, qui fait qu'il va y avoir certaines mesures qui vont être prises, qui ne sont pas toujours les mêmes. Alors les mesures vont être l'isolement d'une personne, l'attente du test, du résultat du test de cette personne. Ça va être l'isolement de personnel de l'éducation nationale ou de personnel travaillant dans les écoles en attente de résultat du test, ou alors aussi d'élèves, ou alors ça va être une poursuite des enseignements avec simplement une personne qui a informé. Il a été évalué qu'il n'y avait pas de risque de contamination et la vie dans l'école continue.
Depuis la rentrée, 22 établissements ont fermé à cause de cas de Covid, dont 12 sur l'île de la Réunion. Ces chiffres viennent du ministre de l'Éducation nationale. En France, on compte 60 000 établissements scolaires.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.